Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Bruno Faure.
Bonjour à tous et bienvenue. Ravi d'être avec vous pour une émission qui va encore une fois donner la parole aux acteurs et aux actrices de l'économie dans le monde, ses observateurs et ses observatrices. Un monde qui s'interroge après une année 2022 que certains ont qualifié et qualifient encore d'apocalyptique. Récession, stagflation, une crise sociale majeure, rien n'est exclu. Mais en ce début 2023, d'autres voient au contraire des raisons d'espérer, de croire à un rebond sans excès d'optimisme. C'est le cas de Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, qui s'est exprimée à la tribune du Forum économique mondial de Davos.
It is less bad than we feared a couple of months ago.
C'est moins mauvais que nous le craignions il y a quelques mois. Mais moins mauvais ne signifie pas encore bien. Ce qui s'est amélioré, c'est que l'inflation semble commencer à aller dans la bonne direction, c'est-à-dire à la baisse. Il y a aussi la perspective que la Chine stimule la croissance cette année. Nous prévoyons 2,7% au niveau mondial. Ce n'est pas fabuleux, loin de là. Il s'agit du troisième taux de croissance le plus faible des dernières décennies. Et puis il y a aussi l'horrible guerre en Ukraine qui représente un risque pour le peuple ukrainien. Mais c'est aussi un risque énorme pour la confiance, surtout en Europe.
Les risques sont encore là, mais aussi ce fameux atterrissage de l'inflation. Alors faut-il croire à un réchauffement économique dans les mois qui viennent? L'hiver relativement doux en Europe, pour le moment, a limité les craintes de pénuries énergétiques. Il y a aussi l'enjeu majeur des taux d'intérêt en forte hausse ces derniers mois, avec les conséquences monétaires et budgétaires que l'on connaît. Là aussi, on semble assister à une accalmie. Est-elle durable? Elles sont donc nombreuses les questions à se poser et pour cela, nous avons invité une experte. Bonjour Laurence Cialhomme.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 10 Nanterre, spécialiste de macroéconomie financière, d'instabilité financière et de la transition écologique. Et puis vous êtes l'auteur, auteureux, avec quatre autres économistes d'un ouvrage qui vient de sortir, Chronique critique de l'économie aux éditions Bréal. Un livre qui regroupe des chroniques diffusées chez nos confrères et amis de France Culture dans l'émission Le pourquoi du comment, économie et sociale. Vous y répondez avec quatre autres consoeurs à de nombreuses questions qu'on se pose tous.
L'inflation fait-elle fondre la dette? Pourquoi avons-nous besoin de la finance malgré tout? Un taux directeur, ça dirige quoi?
Qu'appelle-t-on les biens mal acquis?
Une banque peut-elle être éthique, solidaire et écologique? Mais qu'est-ce que la courbe des taux? Comment expliquer que les billets, des bouts de papier, aient de la valeur?
Qu'est-ce que l'économie de guerre? Que signifie travailler?
C'est vrai ça, Laurence Cialhomme, que signifie travailler? Bonne question.
Alors là, vous posez une des questions d'une chronique qui n'est pas la mienne. Donc, ce bouquin a été coécrit par Dominique Médin, Florence Janicatrice, Mathilde Dupré, Gisabelle Coupet-Soubéran et moi-même. Et donc, nous avons des spécialités qui sont complémentaires.
Il y a un fil conducteur dans vos travaux.
Tout à fait. Et il est indiqué dans le titre. Le fil conducteur, c'est analyse critique de l'économie, c'est-à-dire qu'à la fois, nous avons tout un regard critique sur le capitalisme financiarisé contemporain, sur sa capacité notamment à répondre aux enjeux de la transition écologique. Et nous avons également tout un regard critique sur notre discipline, sur l'économie. Et nous pensons que c'est également dans la structuration même de notre discipline que se trouvent les écueils pour penser à un monde plus juste, plus solidaire et écologiquement soutenable.
On en dira quelques mots tout à l'heure. En attendant, avec vous, on va surtout parler de la lutte mondiale contre l'inflation qui semble lentement commencer à porter ses fruits. Vous avez vu comme je reste prudent avec des reportages aux États-Unis, en Irak notamment. A tout de suite, Laurence Cialhomme, le temps de vous parler de notre autre sujet du jour avec l'auteur d'un autre ouvrage. À surtout ne pas manquer en ce moment. Bonjour Denis Cognot.
Bonjour.
Professeur à l'École d'économie de Paris, directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Votre livre aux éditions du Seuil, un livre de référence sur l'héritage économique de la colonisation française, un empire réussir bon marché, la colonisation, je précise, du 19e au 21e siècle. Ce qui signifie bien que le sujet reste éminemment d'actualité.
Que la décolonisation n'est pas entièrement achevée, disons.
Effectivement, à tout à l'heure. Denis Cogniaux, je salue les fidèles d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, auditeurs et internautes, abonnés gratuits, bien sûr, de notre page Facebook RFI Écho, ECO, pour partager, pour commenter, pour échanger. Bonne émission à toutes et à tous. Laurence Sialom, sans plus attendre, la question qui nous brûle les lèvres. Est-ce que ça y est, l'inflation est arrivée à son pic? Est-ce qu'elle va décroître dans les mois qui viennent et laisser les consommateurs partout dans le monde un peu plus tranquilles?
Écoutez, si j'en crois ce que nous disent les banquiers centraux, effectivement, on devrait avoir un pic d'inflation début 2023 et une décrue. La BCE nous annonce une inflation sur l'année 2023 autour de 5,5-6%, quelque chose comme ça, avec des différences considérables entre les pays de la zone euro, ce qui pose d'autres problèmes, hein, avec des pays qui sont plus à l'est de l'Europe et qui ont des taux d'inflation qui parfois sont au-delà de 20%, hein. Et des pays comme la France où c'est quand même beaucoup plus maîtrisé. Donc oui, on est plutôt dans une phase de décrue de l'inflation. Pour autant, je pense qu'on a changé de régime. On a maintenant des causes structurelles à l'inflation, peut-être pas au pic qu'on a connu, qui a été lié en partie à la sortie du Covid, aux tensions géopolitiques, mais il y a des causes structurelles qui sont liées à la transition écologique et qui sont très bien repérées par les banquiers centraux. Il y a eu un très bon discours d'Isabelle Schnabel là-dessus.
Est-ce que la hausse des taux a été, de fait, un antidote à cette inflation? Est-ce que ça a fonctionné?
Alors, pourquoi est-ce que les banques centrales augmentent les taux quand il y a de l'inflation? C'est qu'en fait, elles essayent de juguler un peu la demande. Vous voyez, vous avez l'offre, la demande. En augmentant les taux, vous découragez la demande. Le problème est que l'inflation spécifique qu'on vit aujourd'hui n'est pas une inflation qui est, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais en Europe, ce n'est pas une inflation qui est liée à la demande. C'est une inflation qui est liée au coût. C'est essentiellement, c'est-à-dire ce qu'on l'énergie. Appelle l'inflation sous-jacente, voilà, l'énergie, les prix des produits alimentaires. C'est ça qui fait l'essentiel de la dynamique inflationniste. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que le plan de soutien à l'économie qui a été mis en œuvre, notamment par l'équipe de Joe Biden, comment dire, a soutenu considérablement l'économie. Et effectivement, là, on a des signaux comme quoi, comment dire, il n'y a pas que les prix de l'énergie et de l'alimentation qui alimentent la dynamique inflationniste.
On va aller aux États-Unis dans quelques minutes. L'Europe, d'abord, d'accord. La Banque centrale européenne dit qu'elle va maintenir son cap, continuer à augmenter les taux d'intérêt, au moins pendant quelques mois. Écoutez ce que disait Christine Lagarde, sa directrice générale, au Forum de Davos.
L'inflation est assurément beaucoup trop élevée. La BCE est déterminée à la ramener à 2% en temps opportun et à prendre toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. C'est pourquoi nous avons déjà augmenté les taux d'intérêt à 250 points de base et nous maintiendrons le cap suffisamment longtemps pour pouvoir ramener l'inflation à 2% dans un délai raisonnable.
Laurence Sialom, la hausse des taux, à entendre Christine Lagarde, va se poursuivre en Europe. L'objectif des 2%, il est réalisable à quel terme?
Alors c'est très compliqué de répondre à votre question parce que, comme je vous le disais précédemment, c'est pas une inflation par la demande. Hein. Il y a une partie de l'inflation qu'on maîtrise pas du tout, notamment ce qui est lié au prix de l'énergie, au prix alimentaire qui peuvent être liés, par exemple, à des sécheresses ou à des inondations à certains endroits, etc. Donc ça, on le maîtrise pas vraiment. Comment dire, la Banque Centrale Européenne est obligée d'une certaine manière de le faire. Alors il y a un canal sur lequel elle insiste pas, mais qui est en fait le canal qui fonctionne un peu, c'est le fait que effectivement, ça comprime considérablement la demande et donc il y a un canal récessif, ça c'est une chose, et il y a le canal du taux de change. C'est-à-dire qu'en fait, en augmentant les taux d'intérêt, elle lutte contre la dépréciation de l'euro, et en fait, nos matières premières, une partie des sources importées d'inflation sont libellées en dollars. Donc on n'a pas intérêt à ce que l'évaluation du cours entre le dollar et l'euro soit trop défavorable à l'euro. Donc si vous voulez, c'est ce canal canal du change, ça permet de limiter l'inflation importée. Mais le problème, c'est qu'on le fait au prix d'une récession, on le fait au prix d'un risque de résurgence d'une crise de dette souveraine en Europe. Parce que vous voyez, c'est très différent en Europe et aux États-Unis. En Europe, un même taux d'intérêt est partagé entre différents pays pour des inflations très différentes. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement le même niveau de taux d'intérêt qui est adéquat compte tenu des situations économiques des différents pays en termes de compétitivité, en termes de niveau d'inflation. Donc, en termes même d'indexation, vous avez des pays comme la Belgique qui indexent les salaires, d'autres pays qui ne l'indexent pas. Donc, ça veut dire qu'au sein même des pays, ce ne sont même pas les mêmes catégories qui supportent le coût de l'inflation. Franchement, la BCE est dans une situation très, très compliquée.
Vous avez parlé des salaires, justement. Hein, au milieu de tout ça, il y a des consommateurs, et il y a des salariés. Expliquez-nous le concept de boucle prix-salaire.
Alors déjà, concept de boucle prix-salaire, le FMI, dans un travail de la fin de l'année 2022, a complètement déconstruit cette idée de boucle salaire. C'est largement un mythe. C'est-à-dire qu'ils ont regardé, y compris dans des expériences historiques, ça n'existe quasiment jamais vraiment durablement. Ils ont repéré quelques expériences historiques qui n'ont pas duré. Et alors, en Europe, il n'y a pas de boucle prix-salaire. En Europe, les salariés se prennent, absorbent une grande part de l'inflation et les PME et les petites entreprises.
Ça veut dire que les salaires ne suivent pas l'évolution des prix.
Exactement. Donc, il y a des pertes de pouvoir d'achat. Par contre, ce qu'on observe, c'est pour des grandes entreprises du CAC 40 et notamment des secteurs très concentrés, on observe une boucle prix-profit. C'est-à-dire qu'avec la libéralisation, vous avez une concentration de certains secteurs. Pensez aux GAFAM, Big Pharma, l'industrie extractive, l'industrie financière. Et eux, ils sont capables de reporter dans leurs prix l'inflation et donc de reporter sur leurs fournisseurs et sur leurs clients le coût de l'inflation. Et donc, ça crée des distorsions qui sont considérables entre les grandes qui peuvent le faire pour des raisons d'élasticité prix, de défaut de concurrence, etc. Elles peuvent le faire. Les PME qui risquent de faire faillite pour certaines qui ne peuvent pas et les salariés qui supportent largement le coût.
La crise à géométrie variable, nous dit Laurence Sialom. La Banque Centrale Européenne qui vient d'annoncer aussi un verdissement de sa politique monétaire en utilisant une série d'indicateurs climatiques pour, dit-elle, mieux comprendre les conséquences sur le secteur financier, pour mieux cibler, dit la BCE, les émetteurs de dettes qui polluent. Enfin, vous nous dites ?
On est au balbutiement. Non, pour l'instant, il y a eu des choses qui se sont passées depuis la revue stratégique, l'annonce d'un verdissement du portefeuille de titres, etc. Mais enfin, on y va tout doucement. Mais par contre, ça serait efficace. Parce qu'une grande partie de l'inflation structurelle qui est à venir et qui va perdurer, c'est une inflation d'origine climatique. Notre dépendance aux fossiles, notre dépendance aux métaux rares pour la transition et donc tout un tas de trucs, le lithium, le cobalt, etc., dont les prix seront également très volatiles. Et puis, l'inflation climatique, c'est-à-dire les événements climatiques extrêmes qui ont un impact sur les rendements agricoles, etc. Donc ça veut dire qu'il faut accélérer pour lutter contre ça. Et franchement, les banques centrales auraient les moyens de le faire. Par exemple, en pratiquant des taux d'intérêt différenciés de refinancement selon que les banques, elles financent ou pas la rénovation thermique des bâtiments, l'économie circulaire, etc. Et ça, on a les outils. On peut verdir des outils qui existent déjà, comme par exemple les refinancements à long terme qui pourraient être conditionné au fait que les banques, donc ça reviendrait à des politiques qu'on a menées antérieurement, si vous voulez, de ciblage, de canalisation de la création monétaire sur des usages qui sont socialement des effets pour l'ensemble de la société très positifs.
Et à plus long terme.
On n'en est pas là, mais évidemment, c'est ce qu'il faudrait faire.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Autre continent, on franchit l'océan Atlantique, Laurence Sialom, les États-Unis où les indicateurs sont de plus en plus mauvais, la demande s'essouffle, nous dit-on, la production est ralentie, il y a des suppressions d'emplois, on en a beaucoup entendu parler dans la tech, cette inflation toujours très forte, il y a de quoi s'inquiéter là pour les États-Unis dans les prochains mois ?
Écoutez, s'inquiéter pas plus qu'en Europe. Moi, je pense qu'il y a plus à s'inquiéter pour l'Europe que pour les États-Unis. En termes d'inflation, je pense que le Fed est décidé à continuer à la hausse des taux. Et c'est probablement une politique qui est plus adaptée là-bas qu'ici. Le problème, c'est que, et c'est ce qu'on évacue souvent, on compare souvent la situation aux années 70. On oublie quand même que dans les années 70, le niveau d'endettement privé et public n'était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi un arbitrage entre juguler l'inflation et ne pas provoquer une crise financière du fait de l'excès d'endettement d'un certain nombre d'acteurs qui pourraient avoir du mal à le supporter.
La consommation en berne aux États-Unis, certains secteurs qui commencent à se gripper, comme l'immobilier, ce qui révèle d'assez mauvais souvenirs, ceux de 2008, la fameuse crise des subprimes, témoignage d'un agent immobilier près de Los Angeles, en Californie, pas très heureux de la hausse des taux d'intérêt.
Oh, there's a marked slowdown in our market.
Ah, il y a un ralentissement de notre marché, oui, mais les logements continuent à se vendre. Ce mois-ci à Long Beach, on a bouclé 108 transactions. Après, les vendeurs doivent rester réalistes sur les prix. Quand le marché était en pleine croissance, si une maison se vendait à 500 000 $, la prochaine vente pouvait monter à 525 ou 539. Ce n'est plus le cas parce que la hausse des taux d'intérêt a diminué le pouvoir d'achat de certains acheteurs. Mais la situation n'a rien à voir avec l'offre et la demande. La demande est toujours énorme en Californie. Fournie et l'offre toujours très basse, le ralentissement s'explique par les taux d'intérêt, selon moi. Et si les taux d'intérêt redescendent dans les 4% cet été, je pense qu'on verra des conditions similaires à il y a 10 mois, quand de multiples acheteurs se livraient à une surenchère pour le même bien. Il faut y voir une opportunité pour les acheteurs. Oui, les taux sont plus hauts, mais s'ils redescendent, ils peuvent refinancer et ils auront entre-temps acheté un bien sans la concurrence de 20 ou 30 autres acheteurs.
Mark Vinton, cet agent immobilier de Californie, au micro de notre correspondant Loïc Piala, délibérément optimiste, toujours optimiste.
Oui, non, enfin, je trouve que c'est très impressionnant cette citation parce qu'en fait, vraiment, il nous montre ce que c'est que les dynamiques spéculatives. Quoi. Et ça montre bien pourquoi il ne faut pas laisser se développer les bulles immobilières. Il n'y a pas de crise financière sans, au départ, une bulle immobilière. Dans l'histoire, c'est vraiment le commun dénominateur.
Et là, on est dans ce cas-là, selon vous ?
Non, mais enfin, je trouve que si on a une décrue des prix de l'immobilier, c'est très bien. Ce qu'il faut arriver, c'est que ce ne soit pas un effondrement. Mais moi, je n'irai jamais me plaindre que le prix de l'immobilier baisse. C'est un marché de stock, si vous voulez. Vous avez une offre qui est très rigide, on ne construit pas. Et puis, c'est donc la demande qui fait le prix. Et vous êtes alternativement offreur et demandeur. Donc, c'est ça qui caractérise les marchés spéculatifs. Et donc, c'est pareil pour le marché boursier, c'est pareil pour le marché immobilier. Donc, je trouve que c'est plutôt sain, moi, que l'immobilier décroisse.
Parmi les effets secondaires de cette hausse des taux, il y a aussi le marché du crédit à la consommation qui, nous dit-on, entre dans une zone de turbulence. Les capacités de remboursement sont diminuées, forcément ?
Oui, bien sûr. C'est un des canaux
par
lesquels...
Ça va mettre des gens sur la paille ?
C'est-à-dire que, surtout aux États-Unis, où effectivement la consommation est très financée à crédit, ça c'est sûr. Enfin, mettre des gens sur la paille, je ne sais pas si ça lui mettra sur la paille, mais c'est précisément par ce canal qu'agit la politique monétaire. Donc, c'est ce qu'on recherche, si vous voulez. Donc, ce n'est pas un effet pervers, c'est ce qui est recherché, précisément. Enfin, les dirigeants du Fed le disent. Ils recherchent une récession parce qu'il y a surchauffe de l'économie aux États-Unis.
Conséquence aussi de cette situation dans les pays moins développés, les pays émergents.
Bien sûr.
L'Irak, par exemple, où le roi dollar est devenu rare et cher, faisant perdre beaucoup de valeur au dinar, la monnaie nationale. Les Irakiens sont en colère. Reportage pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de notre correspondante à Bagdad, Marie-Charlotte Roupi.
Faites baisser le dollar, honte à vous, chantent les manifestants près du siège de la banque centrale, ciblant plusieurs dirigeants irakiens, dont le Premier ministre. Depuis le mois de novembre, le taux de change ne cesse d'augmenter. Zaïd Arawi, l'un des organisateurs de la manifestation.
Quand Soudani est arrivé à la tête du gouvernement, il promettait de faire baisser le prix du dollar qui avait été augmenté par le gouvernement précédent d'Al-Qadhimi. Et maintenant, il a augmenté pour atteindre 164 000 dinars pour 100 dollars.
La monnaie irakienne a perdu 10% de sa valeur en quelques semaines. Abbas est fonctionnaire, son salaire est en dinars, il ne suffit plus. Il demande un retour au taux de change en vigueur avant la crise sanitaire.
Quand le dollar valait 120 000 dinars, mon salaire tenait jusqu'à la fin du mois, et parfois plus. Maintenant, il tient 10 jours, parce que tout est cher.
L'Irak dépendant principalement des importations, la dévaluation se ressent dans les commerces où les prix continuent d'augmenter. Malek est propriétaire d'une épicerie en plein centre de Bagdad.
Les produits que je vends sont pour la plupart une avance. Je les achète au dollar, au taux du moment, 148 000 ce mois-ci, et à la fin du mois, il faut payer la facture et ça passe à 165 000. Si ça augmente, je dois augmenter alors le prix au kilo de 2 à 3 000 dinars.
Beaucoup de ses clients, comme Maya, hésitent à présent avant d'acheter.
Je n'achète que les produits essentiels. Ça a touché tout le monde. Ma pension de retraite, si avant elle valait 1 million de dinars, maintenant c'est plutôt 5 ou 600 000.
Dans les bureaux de change où les cours sont ajustés au jour le jour au prix du marché parallèle, Barkar constate une raréfaction des clients.
Nous avons moins de travail. Ceux qui achètent des produits à l'étranger et sont forcés de les importer à Bagdad tout de suite payent avec le taux de change actuel. Mais ceux qui le peuvent attendent de voir ce qu'il va se passer.
Les autorités assurent que la situation n'est que temporaire. Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures, mais les Irakiens restent inquiets. Marie-Charles Troupy, Bagdad RFI.
La facture monétaire dans des pays peu développés comme l'Irak, Laurence Cialom, spirale très négative.
Oui, bien sûr. Et c'est alors sous des formes différentes, mais c'est pas une première. C'est, quand il y a eu le resserrement monétaire, justement, à la fin des années 70 aux États-Unis, ça a été le facteur clé, en fait, de la crise de la dette souveraine qui s'est nouée au début des années 80. Alors là, essentiellement, au Mexique, ça a commencé par la crise mexicaine. Donc oui, malheureusement, effectivement, ça a des effets induits. Les politiques monétaires de nos pays ont des effets induits qui passent par le taux de change très fort dans les pays émergents. Ouais.
Laurence Cialom, je pose la question à la chercheure que vous êtes. Est-ce que cette accumulation de crises avec des conséquences parfois imprévisibles change votre façon de travailler? Est-ce que la recherche arrive à suivre?
Alors là, vous êtes vraiment sur un point clé, ce qui est d'ailleurs le sujet en fait des chroniques qu'on a fait. C'est que je crois qu'on est rentré dans un monde d'incertitude radicale et où il faut que l'économiste change un peu sa manière de penser en fait et son rapport aux autres sciences sociales et son rapport aux sciences de la vie et du climat. Donc si vous voulez, je peux pas dire que moi ça a fondamentalement changé. J'ai réorienté mes recherches, disons. Mais je fais partie, moi, d'une tradition intellectuelle qui était une tradition de l'économie ouverte sur les sciences sociales, plutôt de socio-économie, d'économie institutionnaliste. Mais par contre, sur les thématiques, ça, très, très nettement, je veux dire, il y a 10 ans, je ne travaillais pas sur la transition écologique. Mmh. Par contre, je pense vraiment que les crises qu'on vit, elles touchent au cœur même de ce qui structure la discipline de sciences économiques. Je pense que les économistes ne sont pas totalement, disons, non responsable de la situation dans laquelle on est, et en matière de finances, et en matière de transition écologique. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, on raisonne en prix monétaire, et les flux de matière sont totalement déconnectés de la question des flux monétaires.
Et vous êtes très écouté, votre parole est très attendue par les décideurs.
J'aimerais, mais malheureusement non.
Non, vous trouvez que les décideurs ne vous écoutent
pas suffisamment? Je pense qu'on est plus entendu qu'on ne l'était il y a 10 ans, parce qu'il y a des discours qu'on ne peut plus tenir aujourd'hui, et donc on nous traite moins d'oiseaux de mauvais augure, comme ça a pu être le cas, quand on pouvait dire « attention, il y a des problèmes qui se posent en finance ». Pour autant, je ne dirais pas qu'on est très écouté.
Denis Cogniot, on va parler de votre livre dans quelques minutes. Je vous fais juste rebondir sur ce que vient de dire Laurence Cialom. La recherche a évolué, la recherche en économie?
Il y a quelques signes encourageants que Laurence Cialom soulignait, mais je pense que l'idée que l'économie, la discipline économique se rapproche un peu plus du reste des sciences sociales. Alors pour moi, par exemple, c'est aussi l'histoire et qu'il y ait une renaissance des approches d'histoire économique au sein de la discipline. Je pense que c'est une réalité. Encore modeste, mais que je vois comme très positive, ne serait-ce que pour apprendre un tout petit peu plus des crises du passé dont que ma collègue évoquait il y a quelques minutes.
À tout de suite, Denis Cogniot, pour parler d'histoire et d'économie. Le temps de remercier Laurence Cialom. Je rappelle votre ouvrage collectif, Chronique critique de l'économie aux éditions Bréal.
Merci beaucoup.
Très agréable à lire. Merci beaucoup, bonne journée. La référence de cet ouvrage, comme celui de notre prochain invité, à retrouver bien entendu sur notre page Facebook RFI Echo, tout comme nos chroniques quotidiennes. Sur RFI, aujourd'hui l'économie, Afrique économie, la chronique des matières premières et les vidéos de nos grands invités de l'économie avec Jeune Afrique. L'intégralité de ces entretiens sur la chaîne YouTube de RFI. Nous passons à notre second dossier. Écoutons l'ancien président français Jacques Chirac après avoir quitté le pouvoir en 2007, cette déclaration sur la colonisation française en Afrique.
On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir.
Déclaration de Jacques Chirac que certains jugeront peut-être visionnaire. 15 ans après, l'héritage économique de la colonisation au cœur des débats aujourd'hui sur les relations entre la France et l'Afrique. C'est donc le sujet de votre ouvrage, Denis Cogniot, Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e, 21e siècle. Un livre où vous parlez des colonies en Afrique et en Asie, l'Indochine. Vous démontez quelques idées reçues.
Oui, je crois. C'est amusant, cette citation de Jacques Chirac. Il est peut-être bien placé pour savoir qu'un certain nombre de fortunes en France se sont faites sur, effectivement, à travers la colonisation. Maintenant, au niveau global, la richesse mobilière française, c'est pas principalement construite sur les bénéfices ou les profits tirés de l'empire colonial stricto sensu. L'impérialisme français, c'est beaucoup plus large que la colonisation française. Et on avait aussi beaucoup de profits en Amérique latine, dans les pays d'Europe du Sud, etc., etc. Et beaucoup de fortunes se sont construites en dehors de l'empire colonial. Il n'en demeure pas moins que, oui, bah, c'est le thème du livre, l'empire a été bon marché, donc déjà bon marché pour le contribuable français métropolitain. Et ça, principalement aussi parce que les États coloniaux militaro-policiers construits à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, dans ce second empire colonial français qui couvrait l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Indochine, ces États coloniaux étaient très efficaces, en fait, pour prélever une ressource fiscale non négligeable et faire fonctionner ces États sans réclamer une subvention ou des transferts très importants vous de la métropole.
Vous dites ça n'a pas beaucoup coûté à la France, mais est-ce que ça a vraiment rapporté
Les capitaux publics ni les capitaux privés n'ont ruisselé vers les colonies. Donc, ça veut dire aussi que nécessairement, d'une part, ces espaces coloniaux étaient des pays pauvres, au départ assez déconnectés du commerce international, etc. On les a fait rentrer de force, d'une certaine façon, dans le marché mondial. Ensuite, il y a eu des thèses qui m'ont précédé, qui affirmaient qu'au contraire, l'empire colonial avait été largement un fardeau, avait fini, et que le capitalisme français avait fini par divorcer de ce mariage, avec ce mariage un peu particulier, avec les territoires colonisés. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que jusqu'à très tard, jusqu'avant les indépendances, le capitalisme français voyait encore des opportunités de profit, etc. Mmh. Et que si on analyse correctement les balances des paiements, contrairement à ce qui a été fait avant, à l'issue d'un travail très long, de compilation de données d'archives qui m'a pris à peu près 15 ans, on voit qu'il y a bien eu des retours de capitaux vers la France métropolitaine et que donc des acteurs métropolitains en ont bénéficié. Maintenant, les gains pour l'économie française dans son entier ne sont pas gigantesques. Ils ne sont pas gigantesques en moyenne, mais ils sont aussi concentrés sur une petite fraction de la société dans laquelle il faut aussi inclure une petite fraction des plus riches colons établis dans les colonies.
Des fonctionnaires, effectivement.
Et pas seulement des fonctionnaires. Il y avait aussi des capitalistes moyens, disons, établis en Algérie, des capitalistes un petit peu plus importants, même en Tunisie ou au Maroc, etc., etc., et en Indochine. Et puis ensuite, aussi des fonctionnaires qui, grâce à des salaires bénéficiant de grosses primes d'expatriation, ont accéléré aussi leur carrière et leur mobilité sociale.
La colonisation qui a coûté cher aussi en frais de fonctionnement et en dépenses militaires.
Oui, alors en frais de fonctionnement, pour l'essentiel payé par les colonisés et les colons présents sur place, c'est-à-dire financés sur les impôts prélevés localement.
Au lieu de revenir à du développement.
Et non, donc par l'aide, enfin ce qu'on pourrait appeler l'aide aujourd'hui métropolitaine. La seule aide métropolitaine très significative, ce sont les dépenses militaires qui étaient effectivement payées par les métropoles et qui étaient très élevées dans l'après-guerre, essentiellement à cause des guerres d'indépendance. Donc jusqu'à l'après-guerre, jusqu'en 1945, y compris les dépenses militaires, les transferts de la métropole vers les colonies, c'était 0,5% du revenu national. Ce n'est pas très élevé du tout. D'accord. Ensuite, après 1945 et jusqu'en 1962, l'indépendance de l'Algérie, on passe à 3%. Mais dans ces 3%, il y a encore 2,5% de dépenses militaires, essentiellement parce que la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie coûtent très cher.
Au final, qu'est-ce que la France a laissé sur place? Des États inégalitaires, c'est ce qu'on dit souvent, avec une difficulté d'ailleurs à percevoir l'impôt aujourd'hui.
Oui, alors des États autoritaires et inégalitaires et les élites nationalistes qui ont pris le pouvoir, avec dans certains cas une petite phase démocratique, quelques exceptions aussi démocratiques, se sont quand même satisfaites de prendre le costume, les chaussures des administrateurs coloniaux et le mode de gestion qui perdurait avant. Et donc, effectivement, on a des formes de reconduction dans les structures de l'État. Un État qu'on appelle dualiste en économie, composé au départ, en tout cas, largement d'une petite classe supérieure et moyenne autour de la fonction publique, des auteurs aussi différents que Frantz Fanon, René Dumont, Samir Amin dans les années 60 vont décrire cette espèce de la constitution de cette bourgeoisie du secteur public qui touche des salaires qui sont nettement plus élevés que le revenu moyen et qui a aussi le pouvoir de décision politique.
Et cette difficulté à redistribuer.
Les socialismes africains ont moins réussi à rompre avec la période coloniale, essentiellement parce qu'ils ont procédé en premier lieu, où ils ont mis en priorité la nationalisation du capital européen, du capital français pour l'essentiel, bien avant l'objectif de redistribution.
Voilà. Est-ce que la France a fait pire que l'Empire britannique? Est-ce qu'on peut comparer les deux colonialismes?
Oui, alors c'est en Afrique subsaharienne en particulier que la comparaison est la plus facile, même éventuellement en Afrique du Nord un peu avec l'Égypte, mais la colonisation de l'Égypte a été assez différente de la colonisation des pays du Maghreb colonisés par la France. Les comparaisons sont plus faciles en Afrique subsaharienne, où il y a des pays voisins, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Gambie, le Nigeria et le Cameroun, le Togo et, et le Ghana encore, etc., qui ont été administrés les uns par les Britanniques, les autres par les Français durant la période coloniale. Et donc on peut faire ces comparaisons, effectivement. La comparaison générale, disons, nous dit que les différences sont de second ordre. Ce qui compte, c'est d'avoir été colonisé, plus que d'avoir été colonisé par l'un ou par l'autre. Malgré tout, il y a des différences, même beaucoup de différences ont été discutées. Si on fait un peu le bilan global, sans rentrer dans tous les détails, il y a des points un peu légèrement positifs ou légèrement meilleurs du côté français pour certaines dimensions et des points meilleurs du côté britannique pour d'autres dimensions.
On dit souvent plus de libre-échange chez les Britanniques, plus de protectionnisme chez les Français.
Il y a eu un peu de ça. Ça faisait partie du discours britannique aussi, de critiquer la colonisation française sous ce régime-là. Il y a eu plus d'interventions étatiques, très généralement, et plus d'impôts directs côté français. Le capital français a toujours été un peu à la traîne du capital public. À la fin des années 30, c'est 2/3 du capital en Afrique subsaharienne. Côté français, c'est public. C'est plutôt moitié-moitié côté britannique. Donc, c'est des différences, mais ce n'est pas des différences extraordinaires et gigantesques. Il y a une différence qui est un peu fantasmatique, côté français, c'est la différence d'éducation. La République française s'est persuadée qu'elle avait été plus capable de répandre les bienfaits de l'éducation en Afrique. C'est pas vrai. Quand on regarde, en réalité, le bilan est plutôt négatif en comparaison des Britanniques.
Ça nous mène à la question de l'aide au développement que vous avez commencé à aborder. Est-ce qu'il y a eu quand même des progrès dans le temps entre 1830, le début de la colonisation, et les indépendances?
En termes de transfert donc métropolitain, comme je le disais tout à l'heure, il y a une période entre 1830 et 1900 où il y a des guerres de conquête. Donc là, il y a beaucoup de dépenses militaires, mais il ne se passe pas grand-chose. Il faut construire les États, etc. Et puis, entre la fin du 19e siècle jusqu'à 1945, les États coloniaux sont largement autofinancés. C'est-à-dire qu'en fait, ils dépensent ce qu'ils ne sont pas capables de prélever sur place. Donc, du point de vue des transferts métropolitains, c'est très limité. L'Indochine, même, qui fait des surplus budgétaires, finance la Première Guerre mondiale.
Les transferts vont plutôt
dans l'autre sens. L'aide va plutôt dans l'autre sens à certains moments.
Ça change
en 1945 à partir de... Alors, parce que beaucoup de choses changent dans le monde et que la France, comme la Grande-Bretagne d'ailleurs, se disent qu'il faut faire un peu de développement pour avoir un minimum d'espoir de conserver une influence, sinon une dominance. Et donc là, effectivement, les transferts l'aide métropolitaine aux colonies augmente. Il faut quand même souligner qu'à l'époque, on débat beaucoup sur... Des gens s'en émeuvent et disent « Mais il faut que la Corrèze passe avant le Zambèze. Mmh. » Quand on fait le bilan, la Corrèze a bien reçu plus que le Zambèze, il n'y a pas de doute. Donc, entre 1945 et 1962, oui, les transferts métropolitains civils, à côté des grosses dépenses militaires qu'on dépense pour garder les colonies face au mouvement indépendantiste, les transferts civils atteignent 0,5% du PIB à ce moment-là, mais les dépenses militaires 2,5%. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de transferts à ce moment-là. Si on fait le compte, on n'atteint jamais l'objectif de 0,7% du PIB, qui est l'objectif de l'OCDE aujourd'hui, pour l'aide au développement. Donc la colonisation, ce n'est pas l'aide au développement.
Sur la suite, l'après-indépendance, on va en parler largement dans la suite de cet entretien. Je voudrais qu'on écoute sur cette question-là et sur d'autres la parole de quelques Africains d'aujourd'hui, des Gabonais en l'occurrence. Quelques ressentis, ce n'est pas un sondage, je le précise, mais quelques ressentis dans les rues de Libreville au micro de notre correspondant Yves-Laurent Goma.
L'aide au développement de la France, je crois que c'est une manière de nous infantiliser toujours. Aujourd'hui, on peut se débrouiller sans l'aide de la France, tel qu'on le voit les autres pays qui sont en train de s'émanciper, à l'exemple du Mali, du Burkina Faso. Je crois que nous, au Gabon, on peut s'en passer.
Pourtant, c'est votre partenaire, historique.
Oui, mais tout ce que nous connaissons de l'aide au développement, c'est qu'on nous donne par la main gauche, on reprend par la main droite, à travers tous les mécanismes que nous connaissons, le franc CFA et puis l'exploitation de nos richesses minières.
Nous pensons que le franc CFA, c'est la continuité de la colonisation de la France en zone Afrique francophone. C'est une monnaie que la France nous impose.
On ne voit pas l'utilité de la présence française au Gabon, honnêtement.
Et c'est possible d'envisager la rupture de la coopération entre la France et le Gabon?
La rupture, pas vraiment, mais revoir certaines choses. Revoir certaines clauses qui ont été faites avec nos anciens. Faut revoir.
Oui, pas forcément la rupture. Denis Cogniot, ce franc CFA, point de fixation, la fin du franc CFA, si elle arrive vraiment, est-ce que ça va résoudre vraiment des problèmes dans la relation au regard de l'histoire ?
Le problème du franc CFA tel qu'il est posé actuellement, il se heurte à des difficultés réelles. Si on prend les programmes les plus ambitieux de réforme, il s'agit de faire rentrer dans le franc CFA des pays très gros et qui sont des anciennes colonies britanniques, pour le coup, comme le Nigeria et le Ghana. Il y a un problème de nom, puisqu'il est censé s'appeler ECO, mais ECO est censé être la monnaie de la CDAO, qui justement est l'organisation des États d'Afrique de l'Ouest qui inclut le Nigeria et le Ghana. Le Nigeria fait 75% ou 70% de l'ensemble de la zone CDAO, ça veut dire que si on a un écho avec le Nigeria, ça sera une monnaie qui ressemblerait essentiellement dans son comportement à la monnaie du Nigeria, c'est-à-dire au Naira, et qui va donc essentiellement varier, on parlait tout à l'heure de la variation du taux de change du dinar irakien, essentiellement varier avec le cours du pétrole dont le Nigeria dépend énormément pour ses exportations. Donc de ce côté-là, il y a pas mal de problèmes qui ne sont pas encore réglés. L'idée que le franc CFA bénéficie à la France plus qu'au pays, elle n'est pas complètement inexacte quand on pense au fait que c'est une monnaie à parité fixe avec l'euro et qu'elle a été créée en 1945, en tout cas sa parité avec le franc a été changée en 1945 pour rétablir la compétitivité des produits français exportés en Afrique qui avaient souffert de l'inflation, on parlait d'inflation tout à l'heure, de la Seconde Guerre mondiale, l'inflation énorme qui était supérieure en France par rapport aux colonies africaines. Évidemment, une partie du patronat français qui est essentiellement exportateur vers les marchés africains tient d'une certaine façon à cette monnaie, à une parité fixe. Une partie des élites africaines aussi, il faut le dire, qui vont faire leurs courses de Noël à Paris, éventuellement sur la Côte d'Azur,
ont intérêt
aussi à avoir une monnaie qui a un fort pouvoir d'achat en France. Mais tous les agents n'en sont pas forcément dans cette position-là.
Voilà. Mais sur la relation entre les populations de ces ex-colonies et la France d'aujourd'hui, est-ce qu'une évolution majeure du franc CFA pourrait...
Alors, jusqu'à présent, les réformes ont été un peu cosmétiques, d'une certaine façon, même si maintenant, on ne peut plus dire que les réserves des pays sont hors d'Afrique, ils sont rapatriés dans les banques régionales. Le fantasme, qui était un fantasme quand même, que le Trésor se faisait énormément de beurre sur les réserves des pays africains, n'a plus lieu d'être. Mais les gens qui réclament un changement du franc CFA majeur, même en dehors de l'inclusion du Nigeria et du Ghana, ils réclament un changement de la mode de fixation de la parité. Et donc, on réclame d'une certaine façon une monnaie qui serait fixée sur un panier, y compris le dollar, le yen, etc., avec lesquels ils échangent, plutôt que uniquement sur l'euro, et éventuellement une monnaie qui, d'une certaine façon, pourrait être flexible.
Ils comptent là-dessus parce qu'ils observent que les pays d'Asie du Sud-Est, qui ont été les grands pays émergents des dernières décennies, ont effectivement la souveraineté monétaire d'une part et des taux de change qui sont des taux de change flexibles et qui même pendant un temps ont été largement sous-évalués pour renforcer la compétitivité. Ils comptent là-dessus, mais les élateurs du franc CFA réformés, même si je serais tout à fait pour le changement de nom, etc., devraient quand même réfléchir à d'autres comparaisons parce qu'il y a des pays africains à côté de chez eux qui ont déjà la souveraineté monétaire et déjà un taux de change flexible, le Ghana, le Nigeria par exemple, et il n'est pas évident que ce taux de change flexible soit une magic bullet, comme on dit en anglais, la balle qui tue tout le monde. Donc le franc CFA réformé, et ça se voit dans les œuvres de gens qui le préconisent, comme Felwyn Sarr ou Kako Numbukpo, fait partie d'un paquet beaucoup plus ambitieux de réformes. C'est qu'un seul élément, cet élément n'est pas suffisant.
Alors justement, ce sujet du franc CFA, on le sait, alimente un certain sentiment anti-français en Afrique. On va écouter l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui était il y a quelques semaines sur les antennes de RFI et de France 24, pour dire ceci.
Nous n'avons rien contre la France, ni contre aucun autre pays. Nous avons un discours qui peut gêner parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations. Il y a des traditions séculaires entre le Sénégal et la France, mais il y a que ces traditions sont assises également sur des relations qui ne sont pas totalement roses pour le Sénégal. Nous sommes au 21e siècle, le monde est en train de changer. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Il ne s'agit plus de placer un président, de lui apporter un total soutien tant qu'il accepte la coopération telle que vous la voulez ou telle que vous l'entendez. Nos pays aspirent à autre chose et nous voulons continuer des partenariats, mais dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ça appelle à une révision d'un certain nombre d'axes, au niveau économique surtout, mais également à beaucoup d'autres plans. Nous voulons des discussions beaucoup plus sereines, beaucoup plus ouvertes et orientées vers des partenariats constructifs et bénéfiques, c'est-à-dire des partenariats gagnant-gagnant dans la gestion de nos ressources naturelles, dans la passation des marchés publics, dans la gestion d'un certain nombre d'éléments extrêmement sensibles que nous avons en commun et en partage et qui, mal gérés, rejaillissent sur les phénomènes que nous connaissons, notamment cette immigration qui pose problème à l'Europe.
Denis Cogniot, auteur d'un ouvrage sur l'héritage économique de la colonisation française, est l'invité d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Denis Cogniot, il y a des propositions concrètes dans ce que dit Ousmane Sonko sur le changement de certaines pratiques dans les relations entre la France et ses pays africains.
Il y a des propositions. Jusqu'à quel point sont-elles vraiment concrètes? C'est-à-dire, qu'est-ce que exactement ça signifierait? Le système de la France-Afrique qui est en critique est quand même un système aussi de donnant-donnant entre élite africaine et élite française, ou patronat français, de marché versus des soutiens politiques, etc., etc. Donc, si la France-Afrique doit disparaître, je soutiens ce programme, mais il doit y avoir des propositions des deux côtés, parce que je pense qu'il faut que les comportements changent des deux côtés. Alors, éventuellement, sous la pression des populations concernées, et en particulier des populations africaines, j'en disconviens pas. Après, il faut quand même aussi voir que malgré tout, la part de la France dans l'aide reçue par ces pays, la part de la France dans les relations commerciales de ces pays, la part de la France dans les investissements directs étrangers reçus par ces pays, elle a beaucoup décru depuis la période coloniale, forcément, d'une certaine façon, parce qu'elle était tellement dominante à l'époque coloniale. Mais elle a quand même beaucoup décru. Par exemple, une bonne partie de l'aide française désormais transite par l'aide européenne. Elle favorise moins les anciennes colonies françaises aussi.
C'est plus dilué.
Un peu plus dilué, elle est gérée au niveau européen. Et donc, malgré tout, il y a quand même des choses ont changé. On ne peut pas dire qu'on est resté exactement au même endroit. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse décréter le décès définitif de ce qu'on a appelé la France-Afrique et de tout ce que ça signifie en termes d'accords donnant-donnant, militaires, financiers et politiques, et de ce que ça aussi inclut d'influence française encore sur les pays.
À ce propos, ce principe d'une nouvelle relation entre la France et l'Afrique, il est régulièrement mis en avant par l'actuel président français, Emmanuel Macron. Écoutez ces mots, c'était l'an dernier aux côtés de Paul Biya, président camerounais, lors de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun. Il parlait des autres pays qui mettent le pied en Afrique.
Ce pays s'est formidablement développé, a gagné en population et s'est ouvert. Et donc d'autres pays, d'autres entreprises sont venues pour proposer. Et donc c'est que nous avons été moins bons que d'autres si nous n'avons pas obtenu les marchés. Il y a une concurrence accrue, et c'est très bien. Il n'y a pas de chasse gardée. Deuxième chose, nous avons dans certains secteurs défendu des positions, mais je souhaite qu'on puisse avancer ensemble sur deux éléments qui me semblent clés. La première chose, c'est qu'on œuvre ensemble aux bonnes réformes de gouvernance pour que tous ces contrats soient faits dans la transparence et qu'on ait une lutte efficace contre la corruption partout. La deuxième chose, c'est qu'on puisse diversifier notre offre et donc que nous puissions être plus présents, encore qu'on l'ait sur l'agriculture, on a une présence historique, mais je souhaite qu'on soit plus présents sur les industries culturelles et créatives, le sport, le numérique, l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a un énorme défi au Cameroun, mais comme partout en Afrique, qui est de réussir à sortir une grande partie de l'économie, de l'informel, pour lui permettre de rentrer dans l'économie formelle. Pour ça, eh ben, il faut avoir des partenariats avec des PME, savoir structurer des financements et des petits tickets et réussir à faire ce développement. Voilà quelques-uns des sujets sur lesquels je veux qu'on puisse réinvestir la relation pour lui donner un nouveau tour, pas simplement quantitatif, mais aussi qualitatif et de confiance.
Pas de chasse gardée, vive la concurrence, nous dit Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Cogniaux ?
Je dirais que le discours là a l'air un tout petit peu plus concret sur un certain nombre de choses, mais quand même, il n'atteint pas non plus le niveau de précision et de concret qu'on pourrait souhaiter. Oui, très bien, mais comment ? On aimerait bien savoir un tout petit peu plus ça. Oui, bien sûr, formaliser un peu plus l'économie, faire sortir le secteur informel d'entreprises de petite taille, les aider à croître, faire un peu plus d'entrepreneurs de petites et moyennes entreprises performantes à l'exportation. Oui, très bien, mais ça, c'est les objectifs sont tout à fait nobles et intéressants. Mais je suis juste prudent puisque ce n'est pas la première fois qu'un président français, il a eu des prédécesseurs, ont voulu tourner la page de la France-Afrique, adopter de nouveaux discours, etc.
On parle encore de néocolonialisme au sujet de quelques entreprises françaises, par exemple, que l'on connaît, qui sont encore très présentes sur le continent africain.
Très présentes. Il faut quand même noter que l'entreprise Bolloré a vendu une bonne partie
elle
de
reste
ses
présente sur le continent,
infrastructures portières.
Dans d'autres secteurs.
Évidemment, si on prend même toutes les colonies françaises, les ex-colonies françaises en Afrique, d'après les données du FMI que j'ai retravaillées, le capital français représente encore un tiers des investissements étrangers. Donc, il y a quand même, les deux tiers sont quand même des investissements d'autres économies, hein, la Chine éventuellement, mais ça quand même représente un tiers, sachant que la France, ce n'est pas un tiers du capital mondial.
La France, c'est 3-4%
de l'économie mondiale. Donc, l'avantage, la position privilégiée, elle est encore là et elle est encore visible, en particulier dans les investissements directs. Et vous parliez d'entreprises. On peut citer Total, on peut citer d'autres, des grandes banques également, Alstom, on peut citer aussi Areva. Voilà. Mais donc, oui, il y a une présence française. Tous les indicateurs montrent qu'elle a tendance à se réduire, peut-être au désespoir d'une partie de ces acteurs, parce que la concurrence... J'ai eu l'impression que lorsque Emmanuel Macron parlait de transparence dans la concurrence, il y avait derrière l'idée qui reflète la plainte d'une partie du patronat français que les autres concurrents de la France n'ont pas les mêmes normes environnementales, de sécurité, etc. Et c'est la critique qui est souvent émise vis-à-vis des investissements chinois.
Dernière question, Denis Cogniaux. Est-ce que le panafricanisme, dont on parle beaucoup en ce moment, est-ce qu'il pourrait s'exprimer via des projets économiques, des pipelines, des zones de libre-échange, par exemple?
Alors, c'est une
redéfinir
idée...
les frontières économiques de l'Afrique, c'est faute de redéfinir des frontières politiques.
C'est une idée enthousiasmante et qui ne date pas d'hier. Les phases des indépendances ont conduit à ce qu'on a appelé une balkanisation de l'Afrique et une dissolution des fédérations coloniales, ce que certains acteurs de l'époque, parmi les leaders indépendantistes, en particulier Léopold Sédar Senghor, ont largement regretté, parce qu'on s'est retrouvé avec des petits pays, hein, un peu plongés dans le grand bain de l'économie mondiale et sans capacité de solidarité entre eux. C'est compliqué de rétablir un panafricanisme, déjà entre les anciennes colonies françaises ou pays francophones, même si ce n'est pas leur langue unique, et encore plus entre, on en a parlé déjà du point de vue du franc CFA, du point de vue monétaire, de faire plus d'intégration régionale. Donc il faut voir qu'une partie des élites africaines aussi n'ont pas forcément intérêt à mutualiser leurs avantages parce que, en matière ne serait-ce que d'aide au développement, même si on est un petit pays, eh ben, on bénéficie d'une rente qu'on serait obligé ensuite de partager. Voilà. Donc il y a aussi des résistances du côté des élites africaines qui préfèrent à la limite parfois être maîtresses en leur petit domaine plutôt que partager avec... voilà. Des résistances du même ordre se trouvent dans l'intégration européenne. Hein. Donc ce n'est pas un problème spécifiquement africain. Mais il existe en Afrique aussi.
Merci à vous, Denis Cogniaux, pour vos éclairages. Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e-21e siècle, aux éditions du Seuil. 470 pages, ça vaut le coup. Merci encore à Laurence Cialhomme, notre autre invité. Merci aussi à Nicolas Benita, notre courageux réalisateur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Nous serons d'ailleurs avec le directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement, Rémi Riou, qui publie un livre sur l'économie africaine. Posez-lui déjà vos questions sur notre compte Facebook, RFI Éco, ECO. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.